Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch-up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, on est là pour parler de la WWE et du pay-per-view Elimination Chamber qui a eu lieu le 17 février à Houston au Texas. Je suis Bad Karma, vous m'aviez peut-être reconnu, et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Yerem. Salut Yerem.
Karma, salut à toutes et à tous.
Ouais. Donc Yerem, comment s'est passé pour toi le visionnage de ce show
Ah bah, en vieux daron, ça s'est passé en plusieurs fois, comme à chaque fois. C'est fini pour moi, les pay-per-view regardés en une fois, même si celui-ci était pas le plus long, hein. Ça durait 3 heures et quelques, je crois, en tout.
Ouais, 3 heures et demie, ça m'a un peu surpris, parce que moi, bah, du coup, je l'ai regardé en direct chez un ami, qui a commencé à s'endormir, donc je me suis pas trop attardé à la fin. Mais du coup, je m'attendais à rester jusqu'à 5h du matin. Bah, à 4h30, j'étais dehors. J'ai fait, ouais, surprise.
Emballé, c'est pesé. Un pay-per-view qui allait à l'essentiel.
Et ben, on va essayer de faire pareil pour cette review aussi. Donc, comme je le disais, nous étions à Houston, au Texas. On va commencer le pré-show, le traditionnel Cruiserweight Championship match. Toujours dans le pré-show, même si moi, ça m'énerve un peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. Akira Tozawa, le challenger, contre Buddy Murphy, le champion. Un match qui a duré 13 minutes, gagné par Buddy Murphy, alors que, en toute honnêteté, Tozawa était plutôt en contrôle pendant tout le match. Il y a notamment un spot, moi, qui m'a marqué, c'est Murphy qui était entre deux cordes et Tozawa qui lui fait un senton assez dévastateur. J'ai cru qu'il pouvait gagner avec ça, mais... Finalement, Murphy réussit à s'en sortir avec un Murphy's Law à la fin, comme d'habitude. Toujours champion, et pour l'instant, tout va bien pour lui. Ton avis sur ce match
Ce qui est cool, en tout cas, c'est que voilà, Murphy il enchaîne un petit peu les contenders, donc il assoit vraiment sa domination. Et Tozawa, qui était un ancien champion, hein, mais bon, ça n'avait pas duré très longtemps, je crois qu'il a vu un règne de un ou deux jours,
ouais,
ou
c'est
une
ça.
Semaine.
À l'époque d'Enzo Amore.
Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Voilà, ça nous rappelle les heures sombres du catch. Bon, moi, je suis toujours fan de Buddy Murphy et je suis un petit peu impatient de voir vraiment le programme qu'on va leur... Enfin, un vrai programme, entre guillemets, pour Buddy Murphy. Quel va être le prochain contender? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu frustrant qu'ils aient mis ça dans le pré-show. Ils étaient habitués à mieux avant les Cruiserweight. Hein.
Ouais, c'est sûr. Là, le match, il a été ultra intense et puis, dans le pré-show, il y a des gens qui regardent pas le pré-show, il y en a qui se disent de toute façon il n'y a que du blabla, ça rien que je regarde. Bah là, vous ratez un match qui était vraiment très sympa. Mais le pré-show c'est bien, mais on va commencer tout de suite les choses qui fâchent ou pas, les choses qui font mal, l'Elimination Chamber Women's Tag Team pour couronner les premières championnes par équipe. Il y avait donc 6 équipes participantes. La combinaison Fabulous Glow, Naomi et Carmella. Le Riot Squad représenté par Liv Morgan et Sarah Logan. Il y avait également Tamina et Nia Jax. Mandy Rose et Sonya Deville. The Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. Et enfin The Hagen Boss Connection, Sasha Banks et Bayley. Ce sont les Hagen Boss Connection et Mandy Rose et Sonya Deville. Donc une équipe de SmackDown, une équipe de Raw qui commence le combat. Et le combat, il n'y a pas d'élimination jusqu'à ce que tout le monde soit présent. Et on a la première élimination assez tardivement, après 17 minutes, c'était à peu près à la moitié du match quand même. Les Iconics qui éliminent Naomi et Carmella.
C'est super ça.
Ça c'est sur un jackknife cover, mais fait à deux. Ça, je trouve ça sympa parce que ça montre vraiment qu'en équipe on peut faire des trucs intéressants.
Vraiment.
Mais toutefois, les Iconics, leur joie ne durera que 3 minutes avant d'être éliminés par Nia Jax et Tamina sur un Samoan Drop de Tamina. Je ne sais plus qui a encaissé Samoan Drop, mais c'est pas important. Elles sont éliminées, c'est ça qui va compter. Ensuite, c'est le Riot Squad qui va être éliminé sur un double Super Fly Splash de Tamina sur les deux. Sur les deux membres du Riot Squad d'un seul coup, bam, comme ça, hop, c'est réglé. Ça, on est à 25 minutes de match, il reste 3 équipes. 2 minutes plus tard, la surprise peut-être, celle qu'on attendait voir en finale de cette compétition, Nia Jax, Tamina sont éliminés par les deux autres équipes qui se mettent à 4 pour faire le tomber sur Nia Jax. Même chose, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Je crois que c'était sur Tamina, je crois.
C'était sur Tamina ?
Ouais.
Oh, c'est pas grave. C'est, comme je le disais, ces éliminations, c'est pas trop important qui prend le tombé, ce qui compte, c'est que c'est éliminé.
Non, c'est ça. Voilà.
Et enfin, donc, il ne reste plus que les deux équipes qui avaient commencé le match.
Ouais.
Et franchement, c'est toujours sympa quand ça arrive. Et à la grande joie de tout le monde, de tout le public de Houston, Sasha Banks et Bayley réussissent à l'emporter sur un bank statement un peu modifié, puisqu'elle ne le porte pas... Elle le porte pas comme d'habitude, elle est un peu blessée à l'épaule, Sasha Banks. Elle le porte un peu différemment en tordant avec ses jambes plutôt qu'avec avec juste son bras. Ça faisait mal à regarder. Donc, première championne par équipe au terme d'un match de 33 minutes dans lesquelles elles se sont envoyées dans tout ce qu'elles pouvaient, les murs, les plexis, les câbles, tout y est passé. Et un match que j'ai plutôt bien aimé, mais toi, qu'en as-tu pensé ?
Écoute, pour moi, la copie est rendue et la mission est accomplie, quoi. Pour les filles qui effectivement avaient fort à faire. Je crois que les quatre premières qui étaient là avaient déjà goûté au métal de la chambre d'élimination.
Oui, l'année dernière, parlé. Effectivement, elles étaient déjà là toutes les quatre.
Ouais, donc c'était plutôt malin de faire ça parce que elle connaissait les lieux, on va dire.
Ouais.
Bon, au début, je vais pas te mentir, au début, je trouvais ça un petit peu lent. Je trouvais tout le monde faisait très attention, toi, de bien faire les mouvements, tout était un petit peu décomposé, tout ça. C'est vraiment quand ça a commencé à être un peu le bordel, quoi, et que vraiment le storytelling est arrivé, que là c'est parti à 100 à l'heure. Et c'est vrai, tu l'as dit, il y a eu du plexi qui a été pété avec Nia Jax qui a foncé comme une dératée à travers le pod. Ça, c'était génial. Donc grosso modo, on a eu tous les spots que les mecs ont le droit de faire habituellement dans une chambre d'élimination.
Ouais.
On a eu aussi, je crois, un spot en hauteur sur un des pods, non, avec Liv Morgan, je crois, non,
qui était. Je sais plus si c'était Liv Morgan ou Mandy Rose, mais
on les cherchait tout en haut.
C'est ça, avec Bayley et Sasha qui montent tout en haut. Je crois que c'était à la fin, c'était Mandy Rose, c'est quand il restait plus que Mandy Rose, Sonia, Sasha et Bayley.
Oui, et que d'ailleurs il y avait un petit clin d'œil que Sasha et Bayley sont regardés en se disant tu te souviens l'année dernière on s'est retrouvés dans la même situation et puis tu m'avais trahi. Donc il y a même toi un peu de rappel à l'historique, alors le petit historique qu'il y a de chez la division féminine dans cet exercice, quoi, mais ça c'était plutôt sympa. Petit big up aussi, petit B+ là pour les Iconics que j'ai adoré. Alors oui, c'est de la low card. Oui, elles sont stressantes là, surtout Billy Kay à gueuler là comme une vieille sorcière.
Tout le temps, ouais, c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite avec mon ami qui regarde.
Ah, c'est trop. Ouais, c'est tout.
C'était exactement ça.
J'en peux plus, quoi. Mais c'est des loseuses, des perdantes, mais c'est les plus malines en fait, les plus intelligentes.
Ça, quand elles éliminent Naomi et Carmella, elles ont le droit de faire le tomber à deux. Elles vont pas se priver de le faire. Ça, c'est sûr.
Exactement. Et puis quand elles vont se cacher dans le pod, parce que t'as les deux gros godes qui viennent les chercher.
Tamina et Naya qui vont les chercher chacune d'un côté.
Ouais, c'était très drôle. C'était très drôle. Voilà, on a vraiment eu tous ces spots là. Donc et puis à la fin, moi j'étais content effectivement. Les deux finalistes, c'était un petit peu mes deux principales favorites, même si effectivement il y avait, enfin, Boss and Hug Connection là, c'était le choix à faire parce que c'est vrai que ça va. C'est Sasha et Bayley, c'est elles un petit peu qui ont poussé et porté ces nouvelles ceintures, ce nouveau championnat.
Ça,
donc,
c'est...
Et que ça va faire et que ça va bien leur aller, quoi. Donc non, franchement, mission accomplie là chez les filles. Ouais. J'ai pas grand chose à redire, je te dis, à part le début qui a un petit peu lent à se mettre en place, mais bon, c'est normal. Elles avaient
ce que je disais en regardant le déroulé et les temps d'élimination. 17 minutes sur 33 avant la première élimination, ça a duré un peu longtemps, effectivement.
Ouais,
c'est peut-être le petit défaut, c'est que ça a manqué de vitesse au début. Ça a été très posé.
C'est souvent le cas quand ils essayent de d'éliminer personne avant que tout le monde soit sur le ring, toi. Du coup, il faut les occuper, ces gens-là, quoi. Et c'est vrai que elle faisait attention et tout. Mais sinon, vraiment, c'était un super match avec un super casting. et chacun a plutôt bien joué sa partition. Donc même Tamina a pas été trop dégueu, donc
son Super Fly Splash a été réussi, voilà.
Ouais, il était moins raté que d'habitude.
Ouais. Non, moi je dirais aussi que j'étais assez content de ce match parce que c'est seulement la deuxième fois qu'ils mettent des équipes dans l'Elimination Chamber. Et la première fois, ça avait été un peu catastrophique. C'était les garçons et ça avait pas été terrible.
Je me souviens pas que c'était pas terrible. Faudrait que je me le remate.
C'était il y a un moment, ça. Mais,
ouais.
Tu regardes, il y avait les Prime Time Players, t'avais The
Ascension, ouais, ou la vache.
Les Lucha Dragons.
Oui, d'accord.
T'avais le New Day qui avait le droit d'entrer tous les trois parce que c'était l'époque où ils étaient heel. Tu vois, ça remonte un petit peu ben, quand même.
D'accord.
Mais voilà, donc déjà, ils s'en sont bien tirés. En termes d'équipe, ils s'en sont bien tirés. Et pour les filles, bah, c'était seulement la deuxième fois qu'elles entraient. Pour certaines, c'était la première fois. Voilà, pareil, elles s'en sont très bien tirées. Pour moi, ça a été vraiment la bonne surprise. Je m'attendais à beaucoup pire. Enfin, beaucoup pire, ça ne veut rien dire. Je m'attendais à vraiment pire de leur part.
Et puis, Sasha Banks, j'ai adoré la façon dont elle a adapté son finisher, là, sa prise de soumission,
ouais,
comme tu l'as décrite.
La blessure. Ouais.
Ça, c'était bien, ça. Ouais.
Ouais, ça aussi, c'était bien. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais à peine le temps de célébrer. En plus, elles n'ont pas de mots. Elles sont. La foule est là.
Alors, ça, par contre.
Elles n'ont pas de mots pour l'intervieweuse qui leur demande leur ressenti. Elles n'arrivent pas à faire des phrases correctes. Bon, bah voilà. Les pauvres, c'est vraiment l'émotion qui arrive.
C'est ça, l'émotion. Mais par contre, j'attends beaucoup d'elles. Il faut vraiment qu'elles montent en gamme en termes de promo et tout. Là, je leur laisse passer la soirée. C'est beaucoup d'émotions, etc. Mais j'aurais aimé une petite promo un peu plus, toi, bien sentie, quoi. Voilà, c'est Bailey, elle a un peu passé la patate chaude à Sacha en disant vas-y, toi, dis quelque chose.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Et puis,
ouais,
t'étais là, y a pas de mots pour décrire. Et t'es là, c'est frustrant, t'as envie de. Bah, si, dites-nous des trucs, t'as envie de communier avec vous. Ouais. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'elles vont réussir un peu à monter leur jeu là-dessus. Mais bon, ça n'a pas du tout entaché le match en lui-même. Donc,
on verra à Raw et puis à SmackDown, parce qu'a priori, les défenses se feront dans tous les shows.
Ah, ça c'est bonne info, ça. Ok. Bah ouais, alors, c'est normal.
On passe d'une équipe de champion tag team à une autre, puisque là, on va passer au SmackDown Tag Team Championship qui est défendu. Mac and Miz contre les Usos. Alors, on commence pas tout de suite, puisque le Miz arrive. Il dit, déjà, il félicite Sacha, il félicite Bayley, bravo. Bon, bah, il vend l'historique, hein, on va dire. Et puis, il invite sa femme à venir sous le Titan Throne. Et on se dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont annoncer un truc et tout. Et bah oui, ils annoncent que Maryse est à nouveau enceinte, ils vont avoir un nouveau bébé. Le public est content pour eux, tout joyeux. Et c'est là que Shane arrive, on fait un peu la fête, on va au ring. Les Usos arrivent toujours dans leur style pénitentiaire, les bad boys. Et on a un match plutôt sympathique entre les deux équipes pour un petit 14 minutes. Pas vraiment de temps mort dans ce match. On a eu un peu le tout de la part des deux équipes. On a Shane qui fait un coast-to-coast à l'un des frères Usos, qui essaye de le faire sur le deuxième, qui était également KO à ce moment-là, mais qui est surpris par un super kick plein dans la mâchoire, qui le couche pour le compte, mais pas suffisant pour gagner, pour que les Usos gagnent. Le Miz reprend le contrôle, les Usos sont dans les cordes, les Usos commencent un peu à tenter d'isoler Shane, qu'ils sentent que c'est Shane le maillon faible. Le Miz réussit toujours à les en empêcher. Shane arrive avec l'aide du Miz à se lancer sur la table des commentateurs où l'un des frères Uso, c'était Jay d'après ce que je lis, était couché. Un moment où j'ai eu peur pour Shane parce qu'il atterrit sur le bord de la table en fait.
Et puis il a l'air tellement à l'ouest à chaque fois là. Enfin, ouais. Le match avait à peine commencé, il était déjà complètement perdu donc.
C'est ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas Jay le Uso légal, c'est Jimmy. Jimmy arrive à surprendre Miz, qui était également l'homme légal, en résistant au Skull Crushing Finale et en faisant un petit backslide pin pour arriver au compte de 3. Nouveau champion à SmackDown, les Ouzo remportent les ceintures pour la, je ne sais pas combien de fois, sixième fois peut-être.
C'est pas la septième même.
Ouais, ils ont un nombre impressionnant de ceintures par équipe. Bravo à eux. Qu'as-tu pensé de ce match?
Ah, comme tu l'as décrit, c'était un peu un showcase de tout ce que les Ouzo et Mac and Miz a à faire, quoi. En particulier, évidemment, Shane McMahon, quoi, qui a coché toutes les cases, le coast-to-coast, la descente du coude à l'extérieur à travers la table, ouais. le vaillant Shane O'Mac, voilà, et ses enchaînements de coups de poing complètement improbables. Bon, voilà, j'avoue que c'est pas que j'avais pas forcément d'attente particulière. Je suis un peu presque frustré de pas avoir été surpris par quelque chose. Toi, tout était un peu sage finalement. Ouais. Tout était un petit peu sage. On nous raconte une histoire là avec Miz et Shane qui perdent, je sais plus, Miz qui reproche un peu à Shane du coup de, ou c'est l'inverse, je ne sais plus.
Non, c'est le Miz qui se reproche d'avoir perdu. Ouais. c'est ma faute, je t'ai laissé tomber, t'étais tellement fier d'être champion et tout, et moi je t'ai laissé tomber. Il commence un peu à s'énerver. Shane qui dit calme-toi, c'est qu'il y a un match, c'est pas grave, va te calmer à la maison, va voir ta femme, et puis tu reviens à SmackDown, on en reparle à ce moment-là.
Donc voilà, il fallait qu'il tombe, hein, c'est logique en fait, il se retrouve face à la meilleure équipe tag team, j'aurais eu du mal à aller voir rouler entre guillemets sur toute la crème de la division tag team de SmackDown, mais... Ouais. ils ont réussi leur premier coup en battant Sheamus et Cesaro, voilà, ils se retrouvaient face aux Ouzo qui étaient vraiment, c'est les meilleurs tout simplement. Ouais. Donc voilà, je suis ni déçu ni enchanté. Il y a rien qui m'a surpris plus que ça. Donc à part la nouvelle qu'ils vont avoir un deuxième gamin, qui était la plus grosse surprise de ce match.
Je m'attendais à ce qu'il conserve la ceinture un peu plus longtemps, même si, effectivement, c'est logique que ce soit une vraie équipe qui l'emporte. J'avais pas pronostiqué la victoire des Ouzo, j'ai perdu un point de prono sur ce coup-là.
Pas sûr, moi aussi, hein, toi, comme quoi.
Ouais.
C'est pareil, tu te dis, voilà, jusqu'où va durer un petit peu le rêve, ils vont le faire durer un petit peu ou pas, et puis non, ça va durer.
Je m'attendais à ce qu'ils perdent soit au prochain pay-per-view, soit à Mania. Mais bon.
Ouais, mais visiblement, ils ont un autre plan à Mania que Shane et Mac ensemble dans la même équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas dans le même match.
C'est pas impossible non plus. Donc c'est déjà le troisième, enfin le deuxième, les deuxièmes équipes championnes ce soir. Et un nouveau match de championnat, il y en a eu quand même quelques-uns, quasiment que ça dans la soirée, à part un match. C'est l'Intercontinental Championship. Un match handicap, Finn Balor tout seul contre Bobby Lashley, le champion, et Lio Rush, le manager de Lashley. Un match qui a duré un peu plus de 9 minutes, 9 minutes et demie très précisément, dans lequel on a très classiquement ceux qui ont l'avantage du nombre qui qui en profitent. Et puis, Balor qui résiste, qui essaye d'isoler Lio Rush, qui finit par y arriver, qui finit par sortir Lashley du ring, se lance en saut suicide sur Rush et Lashley, qui étaient tous les deux en même temps. Il envoie, il assomme un peu Lashley, il remet Rush, qui était l'homme légal, sur le ring, le dropkick, le coup de grâce, 1, 2, 3, Finn Balor, champion intercontinental, alors qu'il était en infériorité numérique.
Ouais. Moi, je comprends pas le booking, surtout après ce qui se passe après le match, là.
Je reprenais juste ma respiration.
Pardon. Non, excuse-moi, j'étais juste en train de respirer.
Ne t'inquiète pas.
Nous sommes des êtres humains à ketchup, nous avons besoin d'oxygène pour même pendant les analyses.
Ouais, c'est les aléas du direct. Après le combat, effectivement, Lashley furieux parce que c'est Rush qui a subi le tombé. Lui fait un choc slam assez violent. L'autre, il est tordu de douleur après. Donc, quel est l'intérêt de ce beatdown? Quel est l'avenir maintenant pour ce duo? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors, à l'heure où je parle, j'ai déjà vu Monday Night Raw, je sais ce qui s'est passé, mais je vais pas spoiler.
Merci.
Mais voilà. Mais bon, Finn Balor, champion intercontinental, moi, je prends. Hein. La manière dont ça a été fait, ça me dérange pas. Au contraire, ça montre un champion valeureux qui a réussi à surmonter l'obstacle.
Ouais, alors, moi, je mettrais un peu d'eau dans ce vin-là, en fait. C'est un peu effectivement c'est pas la manière qui compte au final, puisque voilà, Balor est champion, mais il y a beaucoup de choses qui me déplaisent un petit peu dans tout ça. C'est que Balor a, on ne sait pas trop qu'ils ont voulu mettre en avant, puisque Bobby Lashley a été assez dominant dans ses phases en 1 contre 1 contre Balor.
Oui,
c'est vraiment, Balor cherchait vraiment à affronter la Yorosh, en fait. C'est vraiment là où il pouvait vraiment le malmener. Oui. Et d'autant plus qu'il fait le tomber sur la Yorosh.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est un 2 contre 1, mais voilà, c'est pas comme s'il avait les deux en même temps. Et puis finalement, il a battu la Yorosh, mais il n'a pas fait le tomber sur Bobby Lashley.
Ouais.
Et puis l'angle après le match, c'est un angle entièrement consacré à Bobby Lashley qui bénéficie même d'une pop du public. Alors bon, c'est le public d'un soir, mais
c'est que le public aime pas la Yorosh, il le trouve insupportable. Ce qui...
Ouais, c'est ça. Mais bon, la Yorosh en même temps, il a beaucoup apporté à Bobby Lashley, donc tout je sais pas si c'est un cadeau qu'on lui fait là, de lui retirer la Yorosh.
Je ne sais pas si tu lis. Les dirt sheets ou pas, mais il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs sites, que c'est pas anodin que ce soit la Yorosh qui prenne le tombé et qui se fasse tabasser après. Ce serait un peu pour le punir un peu, parce qu'il semblerait que backstage il ne soit pas très bien vu par le reste du vestiaire, et que les gens lui disent qu'il a tendance à ouvrir un peu trop sa gueule, alors qu'il devrait la fermer et faire son boulot.
Ouais, déjà qu'il avait été pris dans la tourmente à l'époque d'NXT, où il avait balancé un tweet sur Emma.
Ouais,
qui était,
quand Emma était partie.
Ouais. Je suis pas certain que ça soit ce genre d'histoire qui boucle les matchs et tout, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis frustré. J'aime beaucoup Finn Balor, même si la hype est un peu passée, mais ça, c'est un peu la faute des bookers, quoi, qui ont un petit peu, qui font un pas en avant, deux pas en arrière avec Finn Balor. Et je suis un peu frustré, j'aurais aimé que cette prise de titre soit un peu plus grandiose, ouais. Si ouais. J'ose dire, dans un match en 1 contre 1 ou avec Bobby ouais. Lashley, parce que ce match-là serait... Enfin, tu vois, pour moi, ce 2 contre 1 était fait pour justement nous réserver un vrai affrontement ouais. Entre Lashley et Finn Balor. Et du coup, quand il a gagné le titre, j'ai fait bon. Ça y est, il a le titre. Il a un titre enfin depuis son titre universel là, et son règne d'un jour. Il a enfin un titre, Balor. C'est ouais. Cool. Enfin, Finn Balor, il a quand même porté aussi NXT à sa manière. Il a un charisme de dingue, etc. Mais... Bon, voilà, il a un titre. Ok. Enfin, toi, j'étais un petit peu. Je suis content pour lui, mais je suis pas trop content pour moi.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la manière dont c'est fait, c'est un peu. Mais c'est pourquoi comme ça et pas autrement. Ça aurait pu être fait différemment. On aurait peut-être plus apprécié. Voilà, la situation. Si ça se trouve, il va y avoir des changements dans les semaines à venir.
Oui.
Parce que faut pas oublier que Fastlane, c'est le 10 mars. On a ouais. Très peu de temps entre les deux. Et là, ils ont l'occasion de faire un nouveau match, et puis pourquoi pas cette fois-ci enlever Rush de l'équation et Lashley regagne le titre ou ils ont un vrai combat. Parce que c'est vrai que le match, il était intéressant, mais 9 minutes 30, c'était peut-être un peu court.
Ça allait très très vite, ouais,
ça allait à 200 à l'heure, c'était très très rapide.
Que bah tant mieux, bravo à Finn Balor, hein, franchement c'est cool.
Ouais.
Et c'est vrai que je suis un peu frustré par rapport à toi, leur triple threat qu'ils avaient fait à WrestleMania avec Seth Rollins qui
Oui,
avait pris le
oui.
titre. Et il y avait, c'était assez grandiose, c'est toute la période de règne de Seth Rollins, tout. Enfin je sais pas, je me suis dit Finn Balor il arrive après, il ramasse presque, il se baisse et il ramasse la ceinture quoi, c'est ce que je veux dire.
Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Alors, si tu veux bien, on va continuer le déroulé de la soirée. Il nous reste quelques matchs, mais avant les matchs, le match suivant, il y a un segment backstage et un segment vidéo où on nous présente des vidéos d'un live event. Alors, pour une fois qu'on nous présente des vidéos d'un live event, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et bien, en effet, c'était un match entre Charlotte et Asuka. Et Becky Lynch, alors qu'elle est suspendue, est intervenue, a passé Charlotte à tabac, mais elle s'est reblessée au genou, qui était déjà endommagé. Nous montre, enfin, on arrive quand même à comprendre que bah, Lynch n'est pas en état de combattre, malgré ce que les médecins avaient semblé dire avant Raw lundi dernier. Et donc Charlotte commente un peu ce qui s'est passé en backstage. Elle dit que bah maintenant elle va à WrestleMania. Elle a humilié Becky Lynch en lui montrant qu'elle n'était pas au niveau à cause de sa blessure. Elle pensait que Becky prendrait sa suspension au sérieux, mais visiblement elle est trop têtue et trop bornée pour ça. Et Charlotte dit que bah là elle va aller ringside pour regarder le match à suivre entre Ronda Rousey et Ruby Riott, pour savoir qui elle affrontera à WrestleMania. Alors ton avis sur ce segment, puis après on passera très rapidement au match.
Ouais, c'est toujours cool de montrer des choses qui se passent live. Après, je sais pas, histoire d'attaque sur le genou et tout. Alors, de toute façon, moi, je suis un peu frustré de la façon dont ils ont géré l'angle de la blessure de Becky Lynch, en fait. J'en avais parlé en weekly là, avec Giscal, l'histoire du médecin et tout. Ça avait été un petit peu, enfin voilà, c'était assez frustrant, donc. Je sais pas trop, voilà. J'étais plus intéressé par ce qui s'est passé après le match que.
Alors, on va y arriver. Donc déjà le match. Alors premier constat dans ce match, Ronda Rousey n'arrive pas avec son attirail de combat habituel, mais avec un cosplay de Sonya Blade de Mortal Kombat, parce que c'est elle qui fait la voix de Sonya Blade dans le dernier opus de Mortal Kombat. J'ai trouvé
Produit.
personnellement que c'était mieux, parce qu'elle n'était pas toutes les 5 secondes à remettre ses fringues correctement, parce que ça a gêné. Mais
Bout
ça...
de tissu, tu veux dire? Ah, j'avoue.
Alors le match, on va... le match a duré 1 minute 40, ça a été un squash comme on pouvait s'y attendre. Ruby Riott a été massacrée sur un armbar après un Piper Pit. Et donc Ronda Rousey reste championne et, sauf s'il y a changement à Fastlane, devrait affronter Charlotte à WrestleMania. Toutefois, l'affaire n'est pas terminée parce que Charlotte en profite pour monter dans le ring, un petit fa face-off, mais Ronda ne la regarde pas, elle regarde à côté, parce que quelqu'un arrive avec des béquilles. Becky Lynch est là, Becky Lynch arrive depuis le public, elle entre sur le ring, elle se lève sur ses béquilles, elle commence à prendre une béquille pour frapper Charlotte. Une bonne
Becky
béquille.
Lynch, alors du coup. C'est plus Becky Lynch, c'est Becky Lynch.
Charlotte en prend plein le corps. Ronda Rousey ne dit rien, elle se contente de regarder. Becky Lynch propose à Ronda Rousey de frapper Charlotte. Et au moment où Ronda Rousey semble se décider à le faire, Becky la frappe à son tour. Enfin, Becky Lynch la tape avec sa béquille, une fois, deux fois, trois fois. La sécurité arrive, commence à évacuer Becky. On voit que Ronda est un peu ouverte au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu. Elle n'a pas l'air contente de ce qui s'est passé. Becky Lynch, au contraire, elle est tout sourire au moment de s'en aller. Elle a l'air plutôt contente de ce qu'elle a réussi. Est-ce que toi, tu as aimé son intervention et le match, qu'en as-tu pensé?
Le match, rien du tout, vu que c'est un squash. Donc voilà, j'ai suffisamment râlé pendant nos awards sur les non-squash, enfin, les squash qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont jamais fait, notamment à la période avec Nia Jax. Là, bah ouais, ça se prêtait bien parce que c'était pas du tout le propos ce soir. Donc ouais, c'est frustrant parce que Ruby Riott est une très bonne catcheuse, qu'elle peut. Voilà, elle mérite mieux, comme on dit, mais voilà, c'est Ronda Rousey, et puis c'était l'histoire à nous raconter, c'était autre chose. Donc bon, voilà, je préfère ça que nous mettre un match de 10 minutes qui est pas dingue, toi. Donc parfois, il faut accepter les squashs, même si on aime bien celui qui se fait squasher. Donc je pas grand chose à dire là-dessus. Par contre, l'angle après, il était ouf, quoi. C'était d'une violence. Je pensais pas. Qu'ils arrivent, enfin, on se souvient de quand Charlotte s'était déchaînée sur Ronda Rousey après leur match, c'était la folie, quoi. Et là, c'était vraiment du même acabit. Donc, j'ai beaucoup aimé que Becky montre vraiment cet aspect-là, elle aussi, toi. Parce que finalement, face à Charlotte, enfin, c'est difficile, hein, de se mettre au même niveau que Charlotte. Donc, voilà, elle a eu sa part du gâteau aussi. Donc, ça, c'était cool. J'ai adoré que tu l'as raconté, là. Tu comprends ce qui se passe quand Ronda Rousey ne regarde plus Charlotte et qu'elle regarde au loin comme
Ouais,
ça,
c'est
et
ça.
tu fais waouh,
C'est
c'est
exactement
elle
ça.
arrive, quoi. Ça, c'était
Alors,
super bien fait.
c'est ce genre d'angle de caméra qui te laisse penser que ouais, ils auraient peut-être dû tourner, qu'on voit plutôt Becky qui arrive tout de suite, mais non, pour une fois, c'est bien fait. C'est, tu dis, ah, attends, elle regarde pas Charlotte, hein, donc c'est qu'il doit y avoir un truc plus intéressant ailleurs.
Non,
Et le
c'est
truc
ouais.
plus intéressant, c'est Becky qui débarque en béquille. Et c'est, puis bon,
Et
bah, le.
elle s'est fait plaisir, hein.
Ah,
Je
elle
sais
s'est
pas si
lâchée le
t'as
passage
compté,
à
mais.
tabac. Bah Charlotte, elle a pris une dizaine de coups et Ronda aussi en a pris 5 ou 6. Hein.
un ou deux dans la tête, comme tu l'as dit, enfin,
Ouais.
pouf. Donc.
Ah ouais, elle s'est fait plaisir, Becky. Elle était très contente en partant.
Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, j'étais vraiment là, je fais ah ouais, parce qu'en fait, je commençais. Quand elle lui a proposé à tabasser, quand elle lui a proposé, allez, viens, on partage la proie tous les deux. Je dis, non,
Ouais.
pas ça, je veux pas ça. Toi, c'est pas. Non. Et surtout, je voyais Ronda aussi qui prenait un peu aussi un plaisir à regarder Charlotte se faire défoncer et tout. Et j'ai adoré quand Becky a attaqué Ronda Rousey parce que, bah, pareil, comme je disais la semaine dernière, ma crainte, c'était vraiment que Charlotte, en tant que heel,
Ouais.
absorbe complètement la rivalité, l'animosité qui avait été créée entre Becky Lynch et Ronda Rousey, quoi. C'était hyper chaud, hyper hot entre les deux jusqu'à l'accident, enfin jusqu'à ce que Charlotte remplace Becky Lynch et du coup je me suis dit,
Ouais,
enfin,
ouais.
on est en train de perdre ça, ces limites, elles sont pas en train de devenir copines, mais bah il y a plus d'animosité maintenant, c'est tout contre Charlotte, quoi.
Oui, c'est ça, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami.
Ouais. Et
Bah,
non,
sauf que
on
là,
peut
non,
faire un
les.
triple threat où tout le monde se déteste.
Voilà, bon. Je veux pas ce triple threat. J'en veux pas, moi, je veux un 1v1. Mais, bien construit quand même, je peux pas nier ça.
Ouais, c'est ça, c'est. Enfin, pour moi, on y va vraiment hein, à la triple threat
Ah
là.
bah là, avec ce qui s'est passé, oui, y a plus vraiment de.
Plus du cul, il va pas y avoir de Fastlane, Becky va affronter Charlotte pour décider enfin qui ira
Ouais.
chercher Ronda Rousey. Enfin, ils peuvent nous le faire, mais je pense que ce serait vraiment contre-productif par rapport à ce
Bah,
qu'ils sont en train de monter.
officiellement, Becky est toujours suspendue, donc
Oui,
elle a
d'autant plus,
pas.
ils vont juste trouver une astuce. Enfin, j'espère, j'en sais rien. En fait, ça me fait peur cette histoire des fois là. Cet
Ouais.
angle-là, justement, du live où elle lui pète le genou, je me fais what? Pourquoi on repart là-dessus encore? Alors, c'est pour amener l'angle des Becky et tout, mais. Toi, c'était assez. Je me
Ouais,
suis
tout à
fait peur.
fait.
J'y allais vraiment blessé ou quoi? C'est pas possible.
Bah ouais, bah c'est le jeu aussi, c'est jouer avec les craintes du public. Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va pas la voir? On va avoir le match qu'on désire tous ou pas? Et la surprise,
Toi,
pour
ça va se
l'instant.
décider, toi. Est-ce qu'il va falloir attendre vraiment le go-home show de WrestleMania pour savoir si elle y sera?
Alors, encore pire, imagine on n'a pas la décision avant le pré-show de WrestleMania.
C'est
Tu
même
fais
ils peuvent faire ça hein,
waouh, ils
carrément.
peuvent le faire. Voilà, fin de suspension. Allez, 1 heure avant WrestleMania, tu fais waouh là là. Chaud.
Carrément, je sais pas, ouais, t'as raison. Ils ont déjà fait des angles comme ça où, effectivement, jusqu'au pay-per-view lui-même, tu savais
Bah,
pas si les
juste
matchs allaient se
l'angle,
tenir.
la semaine dernière, l'angle John Cena qui est dans le public et qui. On vient le voir. Alors, on se doutait tous qu'il y aurait le match, mais on y a, juste, ils ont poussé le truc jusqu'à essayer de faire croire jusqu'à la fin.
Ça, ils ont été jusqu'à la fin, voilà. C'est ça, c'est vraiment, ils jouent avec des codes qu'on a l'habitude. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment se passer ou pas? Parce qu'il est là, en train de faire le con là avec les fans et tout. Mais
Ouais.
donc non, non, ça c'est bien, effectivement. Ça va être la folie, hein. Même si c'est une triple frite et qu'on veut pas une triple frite, bah moi je trouve que c'est quand même bien construit malgré tout,
Oui, ça
et je
c'est
ferai pas ma
indéniable.
fine bouche, hein.
Ça c'est indéniable, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, on a parlé pas mal de temps quand même sur ce segment, hein. On va essayer de passer à la suite. Alors, un match, j'ai pas très envie d'en parler parce que honnêtement,
Non
j'ai pas
plus.
compris ce match du tout.
Moi non plus.
Mais en 10 minutes et 50 secondes, on a eu Baron Corbin et Braun Strowman dans un no DQ. Alors déjà, premier constat, bah Strowman est redevenu con. Parce que la dernière fois qu'il a eu un ODQ, il avait amené des potes et là, il n'a même pas pensé à le faire. Donc il est en contrôle une bonne partie du match. Corbin se défend, hein. C'est un ODQ très classique. Les kendo sticks sont présents, les chaises, les tables. Donc Strowman réussit à faire une power slam à Corbin à travers une table. Et là arrive l'overbooking et le fait que je ne comprends pas vraiment pourquoi ça a duré aussi longtemps. Donc Drew McIntyre arrive avec une chaise, il arrive depuis le Titantron. Strowman arrive, l'attend, mais Lashley arrive de l'autre côté avec une chaise aussi. Et là, bah, c'est un beatdown, les trois contre un, jusqu'à ce que il passe Strowman à travers deux tables en une triple powerbomb que le Shield n'aurait pas renié et couvre Strowman pour gagner, victoire de Corbin. Dans un truc qui aurait pu durer 10 minutes de moins et ça pouvait passer.
Ouais, non, il y a plein de soucis. En fait, ça traduit complètement, c'est vraiment le gros symptôme là de tout le marasme dans lequel ils sont plongés là, ces six mecs, parce que je compte évidemment Finn Balor et Kurt Angle, hein, qui étaient impliqués dans cette espèce de rivalité croisée. Enfin, il y avait tellement de monde finalement.
Ouais.
Voilà des mecs, des Golgoth, qui n'ont juste, ces mecs n'ont aucun programme. Et là, il n'y avait rien de plus par rapport à tout ce qu'on a déjà vu avant. Pire, comme tu l'as dit, ils sont même encore plus cons. En tout cas, Braun Strowman est encore plus con. Ça se
Ouais.
demandait. Enfin, c'était Finn Balor. Alors, Bobby Lashley, il perd son titre et il se prend la tête avec l'Air Rush, mais il trouve quand même le temps de venir aider son pote. On sait même plus pourquoi c'est encore son pote parce que l'autre il est même plus GM, donc quel est
Ouais, c'est
l'intérêt?
ça, oui.
Vous allez venir aider
Strowman.
Baron Corbin. Enfin, le mec, il a aucune ficelle à tirer pour toi, donc.
Ça, McIntyre, qu'est-ce qu'il vient foutre là, à part qu'il aime pas Strowman, mais bon, c'est pas assez, je trouve.
Ouais, et
Non, mais
puis
voilà,
Ouais,
le match n'a aucun sens.
vas-y.
L'overbooking n'a aucun sens. Les avancées scénaristiques qu'on a vues lors du précédent no disqualification entre les deux ont été jetées à la poubelle. Ça fait plus aucun sens. Ce match-là, c'est de la merde. Voilà, je le dis.
Ouais.
C'était nul. Et ça a duré 10 minutes. Merde, à la fin. C'était trop long.
10 minutes qu'on ne retrouvera jamais.
Ah putain. Un beatdown. En fait, ça a été quasiment un beatdown. Mais il pouvait faire ça en 2 minutes. C'était pas obligé de prendre 10 minutes pour ça.
Alors,
Ah.
à la limite, il fallait switcher ça contre ce qui s'était passé la semaine dernière, à la limite, toi, si tu voulais accorder du temps, toi,
Ouais, voilà.
mais non, ouais, non, c'était ouais. À la
Ou
poubelle.
alors tu fous ça en pré-show et puis tu laisses les cruiserweights dans la carte principale. Enfin bon.
Faut que les créatifs, les scénaristes là se posent là et se posent les bonnes questions, quoi, parce
Bah,
que.
surtout que je disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de matchs de championnat tout au long de la soirée. C'est le seul match de toute la carte qui n'était pas pour une ceinture.
Ouais,
Ça faisait tâche.
ça
Ça
fait
faisait
tâche,
tâche.
exactement. C'est une grosse tâche bien grasse, hein, parce que
Ah ouais, purée, alors
c'est des gros costauds qui
celle-là.
ont bavé partout là.
Le gros rouge qui tâche le gros rouge qui tâche avec en plus la mayonnaise, le ketchup, tout ce que tu veux, vas-y. Allez hop, non, c'était juste à chier, bordel. Je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à être encore plus vulgaire. Alors, on n'a pas fini avec un peu le what the fuck, puisqu'il y a Avant le dernier match, il y a un segment que je m'interroge toujours sur qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que s'est passé. Lacey Evans arrive sous le Titantron, on se dit tiens, elle a un match impromptu, pourquoi pas et tout. Elle marche sur la scène, puis elle repart en coulisses. Je me suis demandé c'était quoi ce bordel. Je ne comprends pas.
Non fait plus. Penser à. Ben, on parlait d'Emma tout à l'heure, ben voilà.
Ouais, c'est ça, un peu. Y a un peu
et Malina.
Mais à la limite, si ça avait mené à un match impromptu contre n'importe qui, pourquoi pas, mais là, ça mène à rien.
Je pense qu'ils ont des petits angles comme ça, de 2-3 minutes. Quand, de temps en temps, et ça arrive rarement, ils sont en avance sur le timing, ils font allez, lancer l'angle Lacey Evans de 3 minutes. Ouais. Ok. Donc Lacey Evans vient, le problème, puis après, ils construisent autour de ça, toi. Puis s'ils n'avaient pas eu le temps, ils ne l'auraient pas fait. Donc,
Mais voilà, très sincèrement, quelle est l'utilité ?
Aucune.
Il n'y en a aucune.
Non.
Surtout que ça nous a permis un peu de rigoler 5 secondes avant le gros morceau, le main event. La chambre redescend à nouveau autour du ring et on se met en place pour le WWE Championship match avec 5 challengers, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles et Samoa Joe. Et qui vont essayer de prendre la ceinture du champion Daniel Bryan, qui sera tout seul. Hein. Il ne pourra pas être aidé de Rowan, qui a été renvoyé au vestiaire par les arbitres avant même le début du match. Alors que, normalement, vu qu'ils sont en cage, il n'aurait pas pu trop interférer, mais bon, c'est comme ça. Alors, le match commence avec Bryan et Samoa Joe en combattant. Kofi Kingston entre, AJ Styles entre, et là on a une élimination. Ils n'ont pas attendu que tout le monde soit rentré pour éliminer du monde, puisque Samoa Joe se fait éliminer sur un phénoménal forearm de AJ Styles juste avant l'entrée de Jeff Hardy. Jeff Hardy montre qu'il a encore des beaux restes, hein, Swanton Bomb depuis une cellule. Mais ce Swanton Bomb lui sera fatal à lui, puisque un running knee de Daniel Bryan vient lui couper les espoirs. Alors Jeff Hardy est éliminé avant l'entrée d'Orton, ce qui fait qu'ils ne sont plus que 4 à ce moment-là. Et l'élimination de Jeff Hardy, c'était à 18 minutes, donc avant la moitié du combat. On a déjà éliminé 2 challengers. En un demi-match. Ensuite, Orton élimine AJ Styles en contrant un phénoménal forearm en RKO, contre de toute beauté, mais ça, c'est Orton et on le connaît bien, et on ne va pas faire la fine bouche sur ses RKO. Il s'apprête à en faire un autre à Kofi Kingston, mais le Ghanéen le repousse. Trouble in Paradise, élimination d'Orton. La surprise, Kofi Kingston, un finaliste de la chambre. Et on va avoir 12 minutes de 1 contre 1 entre Kofi Kingston et Daniel Bryan. Et là, Kofi vole le show. Il résiste à quasiment tout. Il a des near falls. Franchement, moi j'y ai cru. À un moment, j'y ai cru alors que c'est Kofi, je ne devrais pas croire qu'il va gagner. J'y ai cru. Et puis Bryan finit par quand même faire un running knee à Kofi. 1, 2, 3, Bryan reste champion, mais Kofi est complètement conquis le public. Kofi reçoit une ovation générale de la foule. Big E et Xavier Woods viennent l'aider à se relever parce qu'il est complètement épuisé. Un énorme match de Kofi Kingston. Est-ce que tu partages cet avis ?
Oui, de toute façon, tout a été construit pour qu'on ait ce duel-là de plus de 10 minutes que tu as décrit.
Ouais.
Et ils l'ont super bien fait. Enfin, c'est incroyable quand même. Ça, en même pas une semaine, hein, en même pas une semaine, ils ont réussi à construire, build un challenger et arriver à un final de pay-per-view où les gens... n'arrivent plus à respirer, où les gens sont debout, où les gens où tu peux croire tout peut arriver ce soir. Quand Kofi Kingston se relève, c'est ça, il s'est relevé d'un running knee la première fois, c'est ça.
Il s'est retrouvé dans Running Knee.
Rien que ça, tu fais what?
Il a réussi à s'échapper d'un level lock assez bien porté. Non,
il
franchement.
Incroyable. Quand ici, il se prend tout dans la gueule, Kofi, et qu'il est là en mode no sell complètement. C'était excellent. Il est là. Il s'excite comme un fou face à Daniel Bryan qui comprend pas ce qui se passe.
Bryan lui fout des kicks dans les côtes. Et il lui dit, non, vas-y, continue, tape-moi, je l'encaisserai, je te battrai, je vais te défoncer. Enfin, pas jusqu'à je vais te défoncer, mais il montrait qu'il avait l'énergie, qu'il avait la niaque. J'avais dit en plaisantant sur le Discord de Ketchup, il est tellement chaud en ce moment qu'il va retrouver son accent jamaïcain comme en 2009. j'étais pas loin, hein, l'accent en moins en fait. Mais bon.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il allait se fumer un petit truc avec ses potes quand ils sont venus après le rechercher. Mais...
Ouais, ils sont allés se fumer un petit joint de pancake.
Voilà, en écoutant 2-3 vinyles de Bob.
C'est ça.
Pas l'éponge, hein, Bob Marley.
Ouais.
Mais voilà, tout était construit pour ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'après, ce qui s'est passé avant, c'était propre, c'était classe, c'était assez clean. Voilà, Joe, Styles, Hardy, Orton, c'est très contrôle qualité aussi. Enfin, tu vois, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. J'ai bien aimé Jeff Hardy et ça n'a pas duré trop longtemps. Il est venu faire son spot là depuis le pod et puis se prendre. Et puis qu'il a fait son saut là et tout. Donc, voilà, on continue avec.
Se relever, bam, running knee. Allez,
ouais, ça c'était bien. Il y avait vraiment des beaux enchaînements comme ça. C'est ça qu'on aime aussi dans les Mission Chamber, c'est quand tout s'enchaîne. Et ça aussi, les filles avaient réussi à avoir ce genre d'enchaînement où tout le monde se prend tout dans la tronche.
Et puis il y a le RKO qui a éliminé Jay Styles aussi, il est superbe.
Ouais. Alors moi je dirais pas superbe parce qu'il était assez étrange en fait. Il allait le chercher.
Où il prend son impulsion.
C'est ça.
Styles prend son impulsion.
Ouais.
Donc du coup il c'est un peu un Eggman RKO l'air d'un.
Exactement. Moi j'attends vraiment le RKO sur le Phenomenal Forearm qui est lancé, toi. Ça j'attends ça aussi. Mais celui-là c'est un premier aperçu parce que visiblement ces deux-là vont se rencontrer à nouveau leur chemin.
Ouais, c'est pas impossible.
Oui, a l'air très lié là parce que c'est la deuxième fois qu'il l'élimine déjà la semaine dernière. Donc aussi un beau programme. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront frustrés et moi le premier par Samoa Joe qui est un petit peu abonné à se faire éliminer rapidement ou en tout cas le premier premiers dans le genre de
c'est vrai
stipu.
Que ça a été un peu la surprise quelque part surtout au niveau des commentateurs c'est que voilà il était présenté comme une grosse menace et puis bah il est le premier éliminé
Déjà au Series hein, tu te souviens au Survivor Series au Rumble aussi il avait pas fini dans le quartier final Bon voilà, c'est un petit peu dommage aussi pour Samoa Joe. Je pense que c'est un mec qui aurait besoin qu'on compte un peu plus sur lui pour aller un petit peu plus loin, toi, dans ce genre de match. C'est vraiment un mec qui devrait aller plus loin, toi. Se faire avoir une fois, deux fois, ok, mais là, ça commence à être un peu beaucoup. Voilà, donc ça c'est un petit peu frustrant, mais vraiment, enfin, ce qu'on retiendra de toute façon, c'est cette séquence finale. Hein, c'est
Ah oui,
moi, j'en pouvais plus, quoi.
12 minutes de fou entre les deux. Oh là là.
Se retrouver sur le pod, là, s'éclater la gueule contre le plexiglas, c'était génial. Ça,
j'ai cru un moment que le plexi allait sauter, qu'ils avaient tombé hors du ring.
ça aurait été un petit peu con, tu sais. Mais effectivement, il y avait vraiment beaucoup de violence, quoi, entre les deux. C'était visuellement et même au niveau audio, toi, t'entendais vraiment le plexi qui pétait, là, il se tapait la tête et tout, c'était vraiment impressionnant quoi effectivement on suffoquait un peu dans ce match c'était incroyable
mais voilà Daniel Bryan toujours champion bien qu'il ait commencé le match maintenant la suite pour lui ce sera probablement un match à Fastlane à voir qui va être son challenger puisqu'il a quand même battu 5 en une seule fois la suite à SmackDown hein.
Exactement, mais là ça va être intéressant à suivre qui va se lever pour aller défier Daniel Bryan, puisque il n'y a pas. J'ai pas vu SmackDown non plus, mais là à l'heure actuelle, aux sorties de l'Elimination Chamber, à part une éventuelle. Parce que même Kofi Kingston, il a fait un gros match, mais il a perdu propre à la fin, donc grosso modo, il a eu sa chance, il a eu son grand moment. Qui dans la chaîne alimentaire là peut prétendre. Aller chercher Daniel Bryan, ça on verra. Mais c'est bien aussi ce genre de situation où tout semble pas déjà écrit à l'avance. Parce qu'entre le Royal Rumble plus Elimination Chamber, je me souviens, il y a quelques années, voilà, tout était écrit avec ces deux pay-per-view, quoi.
Oui, ouais, c'est sûr. Alors, tu parlais justement de ne pas d'événements pas forcément écrits à l'avance. Je vais on va prendre deux petites minutes pour je vais te poser une question et tu vas essayer de me donner ton avis rapidement.
Ouais. Vas-y.
Sachant que Kofi a pris la place de Mustafa Ali, est-ce que tu penses qu'ils auraient été aussi loin avec Ali ou est-ce qu'ils ont profité du coup de la hype de Kofi pour le pusher un peu plus sur ce final?
Franchement, sauf si un jour ils font, sauf s'il y a une interview shoot ou un jour ils font un documentaire sur le network dans 10 ou 15 ans sur. Là-dessus, on le saura jamais, a priori. Ce que je peux te dire, moi, en tout cas, c'est que j'adore Mustafa Ali. Clairement, il allait avoir, je pense, une prestation. Il aurait pu fournir une prestation un peu comme Kofi Kingston, mais ce qu'il n'a pas, c'est vraiment. C'est les 11 ans qu'a Kofi Kingston à la WWE. Il a un visage connu, Kofi Kingston, du public. Le public adore Kofi Kingston, oui. Et que ces 12 dernières minutes où le public était à fond, c'est aussi parce que c'était Kofi Kingston et pas juste, oui, Mustafa Ali, qui est plus un rookie, un petit jeune que les gens commencent à apprécier et à connaître, mais ils représentent pas la même chose. Donc je suis pas certain, enfin je me dis pas, ah ouais, c'est exactement ça, enfin Mustafa Ali aurait eu exactement ce plan là il aurait été on va dire jusqu'à la fin. Peut-être que si, mais ça aurait été peut-être raconté différemment, et je pense que ça aurait été aussi vécu différemment par le public.
Ouais, je pense donc, aussi.
Voilà, on saura jamais, ça c'est sûr. Donc, c'est ça qui est beau aussi, hein, parce que du coup, on a eu quelque chose auquel on s'attendait pas et qui était assez magique.
Alors, on ne saura jamais, effectivement, mais une chose qu'on veut tous savoir, mon cher IRM, c'est ton flop, ton top, ta note, c'est le mot de la fin, vas-y.
Ah, mon flop, il est assez évident, hein. C'est ce match de Braun Strowman contre Baron Corbin. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment une énorme tâche, quoi, ce truc.
Ouais, c'est sûr, oui.
Je veux dire, enfin, tous les autres matchs, pour moi, c'est des matchs, au moins, tu mets au moins B+, toi, sur ces matchs-là, comme on note à l'américaine, toi. Ce truc, ouais. Ce truc-là, mais c'est une anomalie complète, quoi.
Ouais, c'est sûr, là, t'as un F, t'as la pire note possible.
Ah là là, c'est... honteux, c'est honteux, honteux, honteux.
Rien ne faisait sens dans ce match, c'était horrible.
C'est horrible, c'était horrible. Et mon top, allez, je vais le donner aux filles, au match des filles qui ont vraiment réussi leur mission, quoi, qui ont rendu un super match et qui, du coup, enfin, c'est pas rien, on a des nouvelles ceintures, ouais, à la WWE. Alors, il y a beaucoup de ceintures à WWE, mais celle-ci représente, c'est une nouvelle division qu'on crée à la WWE, et je trouve que ce match rend bien honneur à cet événement, toi. Donc bravo, ouais, aux filles, là. C'était, pour moi, c'est, on va dire, c'est mon top. Et ma note, moi, je vais mettre un 3,75, peut-être quelque chose comme ça, oui. Un 3,75. Même si j'ai l'impression d'être un petit peu, peut-être un petit peu dur, mais il y a quelques matchs qui, Il y a vraiment l'autre, c'est vraiment la grosse tâche, c'est Baron Corbin. Ouais. Et puis, il y a d'autres matchs, voilà, qui sont un petit peu en dessous aussi, mais 3,75 pour moi.
D'accord. Eh ben, écoute, en ce qui concerne le flop, je pense que j'ai été suffisamment clair sur ce que je pensais de Corbin Strowman. Là, c'est plus tiré sur l'ambulance à ce niveau-là, c'est la passer à l'acide. C'est même pas assez, il faut que je la passe au napalm après, c'est pas possible. On peut pas se permettre d'avoir ce genre de match en pay-per-view. C'était complètement inintéressant, c'était complètement raté, ça n'avait aucun sens, on n'a rien compris, les avancées scénaristiques ont été jetées aux oubliettes, c'était horrible. Alors mon top, j'avais également les filles qui s'étaient extrêmement bien tirées de Elimination Chamber, mais je vais le donner à Kofi Kingston pour varier un peu, parce que lui aussi a fait une soirée d'anthologie. Honnêtement, on a retrouvé le Kofi d'il y a 10 ans. Celui qu'on pensait pouvoir devenir champion du monde un jour. Et qui ne l'a jamais été pour des raisons qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Bon, ça, c'est un débat qui ne nous concerne pas vraiment. C'est plus de la politique interne de la WWE. Et ma note, je vais être un petit peu plus sévère que toi parce que la tache d'huile Strowman Corbin est trop grosse pour moi, ça va être 3,5. Voilà, je peux pas ne pas sanctionner amèrement et avec violence ce match ridicule.
Il faut qu'ils nous entendent à Stamford, voilà. Vous avez pas eu le cas. Si vous n'avez pas eu un 4, vous savez pourquoi.
C'est ça. On va passer à la petite séquence auto-promo. Donc, je rappelle que nous sommes sur YouTube, sur PodCloud, sur Spotify, sur iTunes. Est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas.
Non, c'est bon.
Nous sommes sur Facebook, Catch-up CDC, sur Instagram et Twitter, @Catch-up CDC. Je remercie encore une fois Yerem d'avoir fait cette review avec moi.
Merci à toi, voilà. C'était franchement quand même un très bon pay-per-view, donc c'était très agréable de l'analyser avec toi.
Donc cette semaine, normalement, il devrait y avoir les analyses de Monday Night Raw et de SmackDown Live. Et je vous dis à la prochaine pour encore plus de catch. Ciao, ciao.
Salut.